Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'After. Nous sommes ensemble pendant deux heures. After exceptionnel parce que vendredi exceptionnel. Il n'y aura pas la première affiche de la 17e journée de Ligue 1 entre Monaco et Nice. Les forces de police prévues pour ce match qui ont été mobilisées par la préfecture des Alpes-Maritimes pour assurer la sécurité de la rencontre. Eh bien, ils ont été mobilisés pour encadrer les manifestations des Gilets jaunes. C'est comme ça sur dans pas mal de villes en France. Du coup, il y a peu de matchs de Ligue 1 ce week-end. Il y en aura deux d'ailleurs seulement. Au sommaire de cet After, du coup, After de deux heures avec la vie tranchée de Ludo Bragnac qui concerne le Paris Saint-Germain, qui concerne notamment un certain De Jong qu'on évoque du côté du PSG pour la saison prochaine. Un avis tranché de Jonathan Bacardi sur l'OM. Voilà, Jonathan qui est inquiet face au fameux projet de l'Olympique de Marseille. Toutes les infos du jour, on va partir du côté de Nantes également avec Pierre-Yves Leroux qui a rencontré Vaïd il y a quelques jours. On l'écoutera dans quelques instants. Et puis toutes les infos du jour aussi, on va parler de Copa Libertadores aussi, ce sera à suivre dimanche sur RMC Sport bien entendu. Avec nous ce soir, monsieur Ludovic Aubry.
Bonsoir à tous.
Ça
impeccable.
Qui est dans une forme
olympique.
Tu l'as
olympique.
Il est taquin ce soir, il a dit.
Olympique.
Et Stataquignon. Jonathan Bacardi, bonsoir Jonathan.
Bonsoir les amis.
Ça va?
Toujours.
À tes côtés, Jonathan, il est l'incarnation de l'élégance à la française.
Qu'est-ce qu'on est bien reçu?
Je parlais de Simone Rovera. Le Saver des Farges, comment va Saver?
Salut tout le monde, ça va Nico?
Oui,
t'as la forme?
Oui, beaucoup, ça va.
Tout va bien?
Oui, ça va.
Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir?
Moi aussi, ça me fait plaisir de me voir.
Plus beau qu'à la télé.
Et Simone Rovera également est avec nous parce qu'il a une affiche en Serie A, affiche de la 15e journée de Serie A, match entre la Juve et l'Inter.
Ciao, buonasera, bonsoir. Et quelle affiche, et quel match. Et quel résultat incroyable.
Pourquoi incroyable?
Non.
La Juve mène.
Bah oui. C'est la Juve qui mène, mais on était 0-0 la dernière fois qu'on avait parlé sur RMC. Là, c'est 1-0 pour la Juve avec un but de Mario Mandzukic, l'homme fort des Biancolerés en ses débuts de saison. Donc, sur une passe de Cancelo, ton ami, ton...
Jean Cancelo, ouais.
Ouais.
Très bon joueur.
Ton frère, ton peine.
Pourquoi est-ce que les Portugais devraient tous être frères ou cousins? Tu peux m'expliquer ça?
Est-ce que tu peux les connaître?
Est-ce que tu veux dire que les Portugais sont des consanguins? Est-ce que tu veux vraiment t'attiser la haine de toute cette communauté qui habite dans ce pays?
Toi, tu les connais tous, c'est comme des frères.
Bah, toi, c'est continue ce con, en plus, il s'enfonce.
C'est du communautarisme, ça.
Ouais, complètement.
Non. Moi, je
non, mais Simone déconne avant qu'il te fasse vraiment insulter. Et voilà.
Ton pays.
Et bon.
Simone, il connaît tous les pizzaiolos de France, lui, d'ailleurs.
Bien sûr.
Voilà.
On est potes.
Tous les bouffeurs de mozzarella, ils les connaissent tous.
T'interviens dès qu'il se passe un truc, t'interviens quand tu veux d'ailleurs.
Ouais.
Et si chez toi, tu le sais, mon Simonet.
Ah,
tiens.
Grazie.
Et puis je vous rappelle, c'est déjà Noël sur RMC également. Et à cette occasion, la hotte de l'After est pleine à craquer.
Bravo.
Pendant trois semaines, on vous offre le plus beau des Noëls. Vous pouvez remporter des cadeaux. Alors il y a des tablettes, il y a des jeux vidéo. Regarde, je l'ai dans les mains là, si t'es sur RMC Sport News. Il y a un cadeau là-dedans. T'envoies Noël au 732-16. Si je le tease mal, ça va pas le faire. Noël au 732-16. Et puis à la fin de l'émission, bah, tu seras tiré au sort. Et on t'accueillera dans l'After pour te dire quel est ton cadeau. Il est là-dedans. Il y a des tablettes tactiles, il y a des ordinateurs, il y a des consoles de jeux. Enfin, que des trucs
oh,
de ouf.
Oh, 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 oh,
oh. C'est qui lui?
Et t'as le Père Noël à gagner.
Il y a même le Jérôme Vert.
Oh, 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 oh.
Sans déconner, c'est génial. Des DVD de Jérôme. Jérôme Thomas d'Aubragnac, effectivement. C'est des VHS, oui. Du coup, avec Ludo. On n'a pas retrouvé des buts en DVD. Le
salopard.
Il y a également d'autres matchs ce soir. 25 minutes de jeu un partout entre Porto et Portimonense au Portugal. Ça joue entre le Werder et le Fortuna Düsseldorf. Il y a un partout à la 71e. Et ça joue en Espagne entre Leganés et Retafe. Et Retafe mène 1-0 à la pause. On va débuter cet after par le Paris Saint-Germain, le PSG qui ne jouera pas face à Montpellier ce week-end, donc ça fait partie de ces matchs qui sont reportés. Le PSG qui reste sur deux matchs nuls face à Bordeaux et Strasbourg, et qui mardi a un match important face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Saber, toi qui suis le PSG au quotidien, ils sont comment les Parisiens? Ils se préparent comment à ce rendez-vous qui est très important,
hein? Écoute, ils ont repris l'entraînement en fait aujourd'hui parce qu'ils étaient présents hier pour un petit décrassage après la victoire du Paris Saint-Germain en championnat. Neymar n'était pas là. En revanche, c'est la seule petite mauvaise nouvelle, même si pour l'instant le protocole est respecté pour Neymar qui lui poursuit ses soins. Il a travaillé en salle au camp des loges. Son retour à l'entraînement est prévu normalement avec l'entraînement collectif donc dimanche, puisque demain les Parisiens ne s'entraîneront pas à cause aussi de la manifestation des Gilets jaunes. Le Paris Saint-Germain a décidé de ne prendre aucun risque avec ses joueurs, puisque on le sait, hein, certains joueurs habitent dans les arrondissements qui seront touchés par, entre guillemets, par la manifestation. Résultat, aucun risque avec les joueurs qui ne feront pas le déplacement jusqu'au camp des loges. Les Parisiens qu'on retrouvera donc dimanche avant ensuite qu'ils partent lundi pour Belgrade.
L'ambiance, elle est comment?
L'ambiance, elle est plutôt bonne pour l'instant. Pour l'instant, la pression ne monte pas trop. Elle se fait pas ressentir, en tout cas. Les Parisiens ont fait un entraînement très léger, encore une fois, aujourd'hui, avec notamment une petite opposition, avec des petites cages, voilà, chasubles mélangées, qui plus est. Donc, pour l'instant, ça ne se ressent pas trop. On est encore dans la récupération après la rencontre remportée, enfin plutôt le match nul, mercredi, pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, mais ça va monter doucement, mais sûrement, avec évidemment Neymar qui est attendu sur le terrain dimanche.
Alors, parmi les matchs qui sont reportés, la Ligue aujourd'hui a communiqué également des dates. Alors, le mercredi 16 janvier, il y aura Monaco-Nice et Saint-Étienne-Marseille. Et ensuite, alors, il y a d'autres matchs, quatre autres affiches, qui se joueront soit le mardi 15 ou le mercredi 16 janvier. Il y a PSG-Montpellier qui est concerné. Il y a Angers-Bordeaux. Il y a Nîmes-Nantes. Il y a Toulouse-Lyon également. Alors, ça pose un problème pour le Paris Saint-Germain, ouais, qui, normalement, ces dates-là, avait un stage prévu au Qatar. Stage qui devait ramener, bah, une somme d'argent qui était conséquente également et qui est importante également dans le cadre du fair play financier.
C'est surtout pour justifier, en fait, un contrat avec Doha. Donc, on est dans l'obligation du côté du Paris Saint-Germain de faire cette tournée, donc du 14 au 16 janvier prochain. Du coup, c'est très difficile évidemment de manquer cet engagement dans la perspective du fair play financier. Donc on est un peu embêté du côté du Paris Saint-Germain, mais on se veut pas inquiet par cette décision prise par la commission de la Ligue de football professionnel. Pourquoi ? Parce que on attend tout simplement du côté du Paris Saint-Germain une seule chose, se qualifier définitivement pour les huitièmes de finale, et ensuite on a en tête de jouer lors d'une journée de huitièmes de finale de Ligue des Champions, avec les dates le 12, 13 février ou le 19, 20 février. Le Paris Saint-Germain, en fait, attend la qualification définitive et ensuite saura à quel moment il disputera potentiellement son huitième de finale. Si, par exemple, imaginons, c'est le 19 ou 20 février, le Paris Saint-Germain demandera de jouer le 12 ou le 13 février cette rencontre. En revanche, l'UEFA interdit de jouer le soir. Est-ce qu'il va falloir trouver, en fait, là,
est-ce qu'ils sont tributaires aussi de l'acceptation de Montpellier ou pas?
Aussi, il sert à ça, mais il faut aussi déjà que
il peut envoyer la réserve.
Non, hein. Mais il faut aussi que cette demande soit acceptée.
Alors
par
justement,
la Ligue,
hein.
Attention, le Paris
PSG...
Saint-Germain ne va pas choisir en fait une date comme ça au hasard, oui, et dire tiens, ok, très bien, on y va, on jouera finalement le 12 ou 13 février.
Le PSG qui espère que la date sera changée par la commission des compétitions de la Ligue, justement. Alors réponse de Didier Quiot, qu'on a rencontré, le DG de la Ligue, à cette problématique, c'était tout à l'heure.
On a été évidemment en échange et en concertation avec le PSG pendant la semaine. Donc on les a informés de la décision que l'on vient de prendre. Donc c'est au PSG qu'il appartient, s'il le souhaite, une fois qu'il connaîtra sa date de programmation, de demander une dérogation exceptionnelle.
Voilà, donc c'est encore pendant, il n'y a rien de définitif en somme pour l'instant.
Voilà, exactement, pas de voilà, on attend finalement, on joue la montre du côté du Paris Saint-Germain, on attend évidemment une qualification en huitième de finale avant ensuite de prendre position.
Alors, autre info du jour également, alors c'est une info qui a été sortie par le Télégraphe du côté des Pays-Bas, ça parle de De Jong pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain, ouais. Il y a même une somme folle qui est avancée de 75 millions d'euros en vue de la saison prochaine également, tu peux nous en dire plus là-dessus, ça va ?
Écoute, j'ai une certitude. Pour l'instant, c'est que Frenkie de Jong va bien quitter l'Ajax Amsterdam cet été. Voilà. Ensuite, la concurrence, elle est féroce, ça, on le sait.
C'est un malade,
quoi. Ils ont envie de balancer comme ça des informations. le Barça est dessus, le Bayern, Manchester City. Mais ce qu'on peut vous dire également, c'est que le Paris Saint-Germain a clairement une longueur d'avance sur ce dossier. Le Télégraphe l'a révélé ce matin, Théo Henrique. Maxwell ont rencontré l'agent du joueur, Ali Dursun. OK. Une rencontre qui a eu bien lieu. C'était jeudi, juste après Paris Saint-Germain, Liverpool. C'était du côté d'Amsterdam. Mais, en revanche, ce n'est pas la première fois qu'il est deux parties se rencontrent. Les premiers contacts datent de cet été. D'ailleurs, Mino Raiola est aussi impliqué dans ce dossier. De Jong est intéressé. Ça aussi, on peut vous l'affirmer par le projet du Paris Saint-Germain. Mais pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé. Et j'insiste là-dessus. Si deux télégraphes ajoutent le quotidien néerlandais qu'il va falloir débourser 75 millions d'euros pour s'attacher les services de Jong, pour l'heure, on en est très loin du côté du Paris Saint-Germain. On essaie évidemment de faire baisser ce prix-là. Et on estime qu'il ne vaut pas encore cette somme-là, et on ne veut pas dépenser de cette somme-là, qui plus est dans la perspective aussi du fair play financier qui est toujours entre guillemets sur les côtes du Paris Saint-Germain.
Le joueur est intéressé,
ouais,
ou le joueur préfère aller ailleurs?
Non, le joueur est intéressé, il apprécie grandement Guardiola et donc Manchester,
voilà,
City. Il apprécie grandement aussi certains joueurs du Paris Saint-Germain, dont Kylian Mbappé, d'ailleurs les deux se follow sur Instagram. Mais voilà, et c'est tout pour l'instant.
Six
voilà,
follow,
on
alors,
est là,
avec
attention, ils se follow et tout.
Ça m'a fait follow avec Simone, moi.
Ouais, mais je sais que vous appréciez tous les deux.
Et pourtant, tu sais qu'on aime pas.
C'est par intérêt pour ça.
Mais non, pour l'instant, on en est là. Il faut pas dire, à aucun moment on peut avancer que c'est terminé.
Ouais, c'est
il y a un accord.
Mais d'ailleurs,
total,
c'est pas fait.
Il sera joueur du Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est De Jong, juste De Jong, ou j'ai vu De Ligt aussi.
Il y a De Ligt aussi. Il y a certaines rumeurs qui envoient De Ligt du côté du Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, on a que des informations sur De Jong.
Très bien.
Supporter du PSG, on vous attend au 32-16 en tout cas pour commenter cette rumeur de Jong. Est-ce que vous aimeriez voir Frenkie de Jong, ce jeune joueur de 21 ans, déjà international A du côté du PSG? Et là, vie tranchée de Ludovic Obraniak.
S'il te plaît, quand même.
Il porte, mais je vous confonds.
Non, mais moi, ça me fait beaucoup de mal quand tu dis ça. S'il te plaît.
Je sais pas lequel des deux doit avoir le plus.
Ah, c'est moi.
Jingle Obraniak.
Nous, dans ce championnat, on sait qu'on est, on se situe quelque part dans là où on est actuellement.
Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que cette archive?
Ça date de quand, ça?
Je sais pas, mais t'étais déjà bon en analyse, hein. Ouais, ah ouais, vraiment. En tout cas, si tu disais pas de conneries.
Lendemain de soirée.
Avis tranché de Ludo Obraniak qui concerne le jeune De Jong. Toi, tu dis si De Jong signe au PSG, tu pourrais devenir supporter du PSG.
Bon, alors bien sûr, hein, c'est du second degré. On extrapole un peu, mais c'est vrai que j'ai un amour tel pour ce type de joueur. Ça réveille, ça déclenche chez moi ma sensibilité footballistique. On touche à l'émotionnel là. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce type de joueur parce que c'est la base du football que j'aime, c'est-à-dire la construction du, c'est-à-dire que c'est d'amener le point A, d'aller d'un point A à un point B. Et pour moi, il y a une construction. Alors, on peut avoir différentes visions par rapport à cette construction. Mais tu peux arrêter de faire des gestes comme ça alors que je suis en pleine analyse.
Tu savais ce qu'il dit en plus. Non. Tu savais ce qu'il me dit.
Non, mais je vais te dire la vérité. C'est parce que le micro de Jonathan était mal placé. Donc,
j'ai suggéré de le mettre quelque part dans mon
non. Je te l'ai dit, mais le bien devant ta bouche.
Ouais, mais bon.
Excusez-moi, pardon, Monsieur Boignac.
Non, je te disais.
Moi, je t'ai écouté en plus.
Ouais, j'en ai bien.
Ouais, mais toi, tu regardes Juve Inter.
Bon, vous avez. Arrêtez de couper, merde!
Vous avez décidé de me saborder ce soir.
Non, vas-y, en plus, c'était bien parti, là. Vas-y.
J'avais décidé d'être humeur taquine, mais bon, voilà. On verra après. Non, je te disais que j'aime le jeu de construction. Pour moi, c'est la base du football que j'aime. Et pour moi, quand je vois ce type de joueur, voilà, c'est quelqu'un qui t'amène un florilège de possibilités tactiques, en tout cas pour un entraîneur, et notamment celui du Paris Saint-Germain, puisque ce joueur, à l'instar du football américain, on pourrait le considérer comme un quarterback, c'est-à-dire qu'il joue poste bas et il peut alimenter que ça soit en passe courte ou en passe longue. Et
est-ce que c'est vraiment le profil que le PSG recherche? Parce qu'on sait qu'il voulait peut-être un joueur assez athlétique.
Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on voit le PSG de Tourelle actuellement, il offre une possibilité tactique. Il offre différentes possibilités tactiques. C'est-à-dire que il met en place un système à 5 derrière, bon, qui est plus un 3-5-2. Donc du coup, tu n'aurais pas la nécessité forcément d'avoir une sentinelle à vocation défensive. Donc tu pourrais jouer assez facilement avec lui et Verratti si tu as la charnière à 3 derrière lui sans problème. Tu peux, il le fait en sélection. Il joue à 2. Moi, je le vois plus en 8. Disons avec quelqu'un derrière lui, donc ça réglerait pas le problème de la sentinelle.
C'est ça le souci, c'est que ça ne règle pas du tout le problème de la sentinelle, parce que cette saison il n'a pas joué une seule fois dans un poste de numéro 6.
Il joue 8.
Il joue aussi en défense centrale et il joue 8. Donc c'est pas du tout en fait ce que recherche le
défense centrale.
C'est
à 2 ou à
3 particulier.
À 2 ou à 3?
À 2.
À 2?
Ouais. Avec Delire.
C'est une bonne indication, non?
Donc voilà, ça change beaucoup de choses. Après, ce qu'on peut vous dire également, c'est que le Paris Saint-Germain évidemment est intéressé par ce joueur et pour l'été prochain. En revanche, Paris est toujours sur ce dossier-là, à savoir recruter un numéro 6 cet hiver.
Mais
un vrai numéro 6.
C'est un top recrutement parce que c'est ce garçon, c'est un, à l'image d'Mbappé, la nouvelle génération, c'est un virtuose du football. C'est-à-dire que c'est un garçon qui sait tout faire, il sait casser des lignes, il sait jouer long, il a une main à la place du pied, ce garçon. Et il rentre parfaitement dans la combinaison égocentrique du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a pas un égo surdimensionné, qui serait capable d'alimenter en termes footballistiques les stars qui seraient devant lui, c'est-à-dire Mbappé, Neymar et Cavani, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment quel sera son avenir. Mais, ouais. Et c'est quelqu'un qui n'a pas encore l'ego d'être au-dessus de ces joueurs-là, même en termes d'individualité. Donc, moi, je le vois très bien s'intégrer dans
le collectif.
Et ça serait aussi un beau risque footballistique pour lui, parce que on le verrait plus, il est Guardiola ou Barça compatible, donc il sort de sa zone de confort. Et ça serait un vrai choix intéressant pour le
PSG.
On
va accueillir Dayan, qui est supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16 pour parler de De Jong, de Frenkie De Jong. C'est la rumeur, c'est l'info du jour également. Salut Dayan.
Salut à tous.
Salut Dayan.
Comment allez-vous?
Bah et toi?
Très bien.
Bah écoute, hein, ça va très très bien. J'ai vu la rumeur aujourd'hui qui est passée un peu partout dans les journaux. Et bah moi, contrairement à Ludo, je suis un peu sceptique en fait, parce que pour moi, c'est pas le meilleur des choix. C'est très bien s'il arrive cet hiver, comme l'a expliqué Ludo, c'est une pépite en devenir sans aucun problème. On a vu jouer, c'est pas un souci. mais ça réglera pas les problèmes en fait. Donc c'est bien de se lancer dans des opérations à 75 millions, mais j'aurais préféré que Paris s'occupe de trouver vraiment quelqu'un pour remplacer officiellement, parce qu'on n'a jamais remplacé Thiago Motta depuis son départ, et éventuellement plutôt de s'intéresser à un éventuel départ de Cavani, parce que ce qui se passe, c'est que si demain, comme là, on a Neymar et Mbappé qui commencent à se claquer de plus en plus, si on n'a pas Cavani devant, je vois pas qui est-ce qui va planter des buts, quoi.
Mais déjà, toi, tu te projettes sur le mercato de décembre, là, c'est ça? Tu
c'est ça.
Te projettes pas? Non, mais ça, je pense pas que ça soit pour décembre, c'est pour cet été.
Ouais.
Après la question,
tu auras le temps de faire des remaniements d'ici cet été. C'est-à-dire le départ de Rabiot est quasiment acté maintenant.
C'est pas encore fait.
Tu penses vraiment qu'il y a moyen qu'il reste, toi, Saber?
Il y a encore la possibilité.
Je pense qu'il y a moyen qu'il reste.
J'ai une vente d'une réunion entre Véronique Rabiot et Nasser Al Khelaifi dans les prochains jours. Exactement. Donc c'est pas encore terminé.
Je suis de l'avis de Saber. Pour moi, à mon avis, Rabiot il va nous faire un peu comme tout on fait toutes les stars au PSG. Il va râler un peu sur le salaire, et vu qu'ils ont peut-être pas forcément quelqu'un à remplacer tout de suite, ils vont quand même le garder s'ils arrivent à jouer le 8e, s'ils arrivent à se qualifier.
Après, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est que effectivement, c'est un joueur qui est d'une classe folle. Je pense que si t'as l'opportunité de le prendre, il faut le prendre. Mais quid de la complémentarité avec les autres milieux de terrain parisiens?
Ouais.
C'est ça le problème. Parce que, alors oui, je suis d'accord, si tu joues à 3 derrière, tu peux éventuellement envisager de jouer avec De Jong et Verratti. Mais est-ce que c'est une combinaison optimale? Est-ce que les deux sont vraiment très complémentaires? Parce qu'en somme, si on se base, on part du postulat que Adrien Rabiot ne veut pas jouer au poste de numéro 6, ce qui est un fait, tu vas te retrouver avec Rabiot, Verratti, De Jong. Trois joueurs qui, somme toute, ont un profil relativement similaire.
Je pense que ce choix-là dépend aussi de la situation de Rabiot, non?
En tout cas, on pourrait le penser, mais
c'est aussi un moyen de lui mettre aussi un peu la pression aussi à Rabiot.
Oh, pas que, je pense pas. En tout cas, qu'on pense en fait finalement à remplacer Rabiot.
Mais de toute façon, Rabiot, il va attendre décembre et il va faire jouer la concurrence. Il va voir ce que lui proposent les clubs qui sont intéressés. Il va demander à Paris de s'aligner.
Il sera libre de d'écouter et de s'engager où il le souhaite.
Avec une prime à la signature.
Cet hiver.
C'est un choix de qui, De Jong? Tu sais, toi?
Pardon?
C'est un choix de qui, tu sais?
C'est Thomas Tuchel maintenant qui a pris la main sur la question.
Tu vois, on en revient.
Sur la question aujourd'hui du recrutement, c'est Thomas Tuchel aussi qui glisse une shortlist à Maxwell, en Théo Henrique. C'est en tout cas le message qu'a envoyé Maxwell, par exemple, à différents agences ces dernières semaines. C'est Thomas Tuchel maintenant qui décide sur la question des joueurs qu'il souhaite recruter. Alors, pour les prochaines saisons.
Dans ce cas-là, on en revient à ce qu'il avait dit quand il avait été l'invité d'RMC Sport il y a quelques semaines maintenant, où il remet sur la table la fameuse question et la problématique du numéro 6. Si là, ils sont prêts à acheter un joueur, pourquoi, si c'est lui qui décide, il va chercher un joueur qui n'a pas le profil de ce qu'il veut et de ce qu'il réclame depuis tant longtemps?
En plus, ce qu'on peut
dire, c'est que ce soit une opportunité.
Ce qu'on a vu contre Liverpool, c'est-à-dire que tu as Marquinhos qui à un moment donné a joué numéro 6 et est venu
exactement
comme troisième défenseur, mais ouais, qui peut faire l'inverse aussi,
ouais,
c'est-à-dire
ouais
qu'il peut être, il peut partir et en tant que troisième défenseur en tâche défensive et monter d'un cran.
Je pense qu'on se méprend un petit peu tous ensemble sur le sujet. Je pense que De Jong, il est capable de jouer numéro 6 et il est beau, et c'est pas, on a tendance à être un petit peu, non mais surtout on a tendance à être un petit peu aveuglé par son élégance, par sa classe, par le fait qu'il soit techniquement ultra soyeux, mais sur les matchs que j'ai pu voir de lui avec l'Ajax, il met le pied quand même.
Ouais, mais il se fait bouger pas. Alors tu sais quoi, on a dérushé tous les matchs avec Julien Momon cet après-midi, enfin surtout lui d'ailleurs. Il a préparé une super chronique, un tactical dans Footissime. Je peux te dire qu'il y a excellent des matchs en Ligue des Champions.
Excellente émission. Et lundi à 20h45 sur RMC Sport.
Vendredi également.
Mais Nico, il
s'est bien fait bouger,
ouais, Nico,
quand même aussi.
Il a 21 ans.
Ah mais moi je te dis pas.
Il va prendre 5 kilos de muscle, il va pas comme Saber d'ailleurs. Non, il va aller à la muscu, tu vois, je pense qu'il va devenir un peu plus dur. Son corps va évoluer. Et je pense qu'avec un tout petit peu plus de densité musculaire, dans l'intention défensive qu'il a, ça peut être un super numéro 6. À la manière d'Adrien Rabiot, quand Adrien Rabiot, on le voyait débuter, plusieurs, dont moi, pensaient qu'il pourrait jouer numéro 6 en prenant un peu de muscle. Et là, on voit bien que quand il joue 6, il est très bon.
Ce qui est assez dingue chez ce joueur, c'est qu'il est capable de jouer, donc, dans le milieu à 3 ou même à 2. Il peut jouer défenseur central, puisqu'il a joué plus d'une vingtaine de fois défenseur central. Et il peut même, puisqu'on a vu ses stats, il alimente beaucoup dans les 30 derniers mètres. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il est aussi capable de jouer en numéro 10.
Donc
c'est une vraie plus-value où il peut t'apporter, il peut te dépanner même sa polyvalence.
Ça peut permettre de compenser. Remercie Dayan qui nous a appelé au 32-16.
Salut Dayan.
Et c'est quelque chose qu'apprécie aussi Thomas Tuchel. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé chercher par exemple un Thilo Kehrer qui est capable aussi de jouer dans différentes positions en défense.
Moi, vous savez, pour l'instant, au même âge à comparer, il me fait penser un peu à Laurent Blanc.
Merci.
Non mais c'est vrai. Non mais sérieusement, Laurent Blanc, il joue au milieu de terrain, il joue numéro 10.
Profil,
il jouait numéro 10, il était super fort, il avait une technique, il avait une super technique.
Ils n'ont pas du tout le même profil les deux. Tu vois, c'est pas la même façon de jouer, c'est pas morphologiquement.
Alors, morphologiquement, il est grand et longiligne comme Laurent Blanc qui est grand et longiligne. Il était pas très costaud quand il a commencé Laurent Blanc. Regarde les images, il était super, il était même beaucoup, il était quand même très très fin. Mais c'est un peu le même profil du genre.
La malice aussi.
Non, mais le mec qui peut jouer numéro 10 et qui peut jouer derrière, ça me fait penser un petit peu à ça. Après on verra comment il va évoluer, mais je pense qu'il peut, il a en lui de devenir un très bon numéro 6.
On est dans le temps additionnel de l'affiche entre la Juve et l'Inter, Simone Rovera.
Oui, ça commence maintenant, le temps additionnel, 4 minutes encore à jouer, 4 minutes de petit espoir pour l'Inter qui n'arrive pas vraiment à inquiéter la Juve dans ces dernières minutes. Pour la Juve, ça serait la 14e victoire sur 15 matchs de Serie A. L'Inter tomberait à 14 points de retard des Bianconeri.
Oh la vache. Et puis je vous rappelle que vous pouvez gagner des cadeaux également jusqu'à Noël sur RMC et dans l'After notamment. Vous envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. Et vous pouvez gagner des cadeaux. On vous annoncera le nom du vainqueur de ce soir. Dans l'After, bien entendu, en fin d'After. On accueille Malcolm, autre supporter du PSG qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Salut Malcolm.
Salut Saber.
Salut Malcolm, Ludo. Bonsoir à tous.
Salut Jonathan. Salut. Sportiste.
Ouais, non, enfin, bref, ouais.
moi je suis très. Moi franchement, De Jong, comme rumeur. Enfin, c'est pour toi, c'est qu'une rumeur, donc on va rester au conditionnel. Mais moi ça me ferait très plaisir. Ça me ferait très plaisir, sachant que oui, là pour l'instant, on le juge par rapport à ses 21 ans et je trouve quand même qu'il fait un peu léger. Mais physiquement, il n'est pas encore fini. Il va prendre ses muscles. C'est un résistat qui est vraiment. Il peut jouer au résistat. Il a la classe. Et ça nous manque aussi d'avoir une autre personne qui puisse dicter le tempo. Et d'après ce qu'il dit d'Aber, je crois, il cherche quand même aussi un site à côté pour janvier.
Et c'est quoi ce délire, les gars, d'être. Il faut avoir du muscle pour jouer meneur de jeu.
Meneur de jeu, mais je pense que si tu prends De Jong, je pense que dans l'idée de Tourelle, c'est vraiment de le mettre devant la défense. Et je pense que quand tu le vois jouer, quand tu vois la qualité qu'il a, il serait parfait devant la défense à condition de devenir, un petit, comme tu l'as dit, Nico, qui a revu les matchs, d'être un petit peu plus dur dans les contacts.
Mais Malcolm, toi, ça te ferait kiffer, toi.
Moi, ça me fait grave.
Mais il compense par sa capacité, son intelligence de jeu. On a vu sur l'interception normalement de ballons interceptés et de plein d'autres choses. On n'est pas obligé que d'être dans le duel et dans l'impact physique. On peut aussi avoir intelligence de jeu, couper des trajectoires de balles. Et c'est ce que j'ai beaucoup vu quand il a joué contre l'équipe de France, où il a récupéré un paquet de ballons en jouant à deux, parce qu'à chaque fois il anticipe les trajectoires de balles. On n'est pas obligé d'être dans l'impact physique.
Mais il y a un poste où moi je le vois dans le schéma de Tourelle, où je trouve que ça serait extraordinaire de le voir, c'est quand Tourelle joue à 3 derrière, de voir libéraux de cette défense à 3.
Ouais.
T'imagines la qualité de relance que tu pourras avoir de derrière avec Verratti et Rabiot au milieu. Oh là là, mais là, tu leur prends plus la balle au PSG. Hein.
Malcolm, vas-y.
Sachant qu'en plus, justement, par rapport le côté métronome qui, moi, l'intéresse, on ne l'a plus vraiment depuis le départ de Thiago Motta. On a juste Neymar qui le fait. Quand Neymar n'est pas là, on voit dans le jeu, c'est une horreur à chaque fois. Quoi. Ils ont un peu de mal.
Une horreur, tu n'exagères pas un peu?
Non. Oui, je suis dur, je suis parisien, je suis dur. Mais on voit Verratti, qui est un très bon joueur. Verratti, il a toujours du mal à prendre ses responsabilités. Et on attend toujours plus de lui. Et pour l'instant, à part Neymar, personne ne veut dicter ce tempo. Donc, j'en vais avoir un meneur en plus, s'il a reculé. Ça ferait plaisir. Ça ferait énormément plaisir.
Simone, j'ai dans l'idée qu'il va. Aussi, tu vois qu'il rayonne sur les autres. Et je me dis que quelqu'un comme Verratti, il a besoin de quelqu'un comme ça à côté de lui pour pouvoir combiner.
Oui.
T'en penses quoi, toi?
Ça peut être un joueur qui l'aide beaucoup. Après, il faut voir si Verratti va être encore là.
Verratti,
pourquoi toi, tu penses à un départ, toi?
C'est jamais.
Verratti, il a besoin de quelqu'un qui fasse un peu le ménage, surtout à côté de lui, tellement les feignants.
Il n'a pas prolongé.
Il lui reste combien de temps de contrat?
Hein?
Il lui reste combien de contrats?
Il reste encore 3 saisons.
3 saisons? Ouais, il sera là.
Et quoi, tu penses qu'il peut en avoir marre, toi, c'est ça?
Quand il y a Mino Raiola qui travaille sur un dossier,
Il irait où, Marco Verratti? Quel club accepterait de prendre en charge son salaire?
Moi, j'ai dit que si Paris doit vendre des joueurs, Marco Verratti, c'est une des joueurs qui a encore en valeur importante.
Ça, c'est vrai.
Il a un salaire tel que
quel club serait prêt à s'aligner sur ce salaire-là, Saber?
Il a un salaire
qui est pharaonique.
Marco, c'est pas encore si pharaonique que ça. Hein.
Il est à combien?
Je sais que c'est 5 et des minettes. En Italie, tu peux avoir tranquillement un club qui te prend. En Angleterre aussi, c'est pas son profil. Mais
à la Juve, tu penses? Par exemple,
son club de cœur
en Espagne, non?
L'Espagne, je sais pas. Moi, je dis pas parce que j'ai des infos que Marco va partir. Je dis seulement que.
Tu te poses la question, quoi.
Si on pose la question, c'est entre les joueurs à sacrifier un jour ou l'autre, il n'y aura pas Marco Verratti.
C'est fini, Juve-Inter, Simone.
C'est fini. Quelques secondes.
Non, c'est pas encore fini, Jérôme Thomas. Il est pressé.
Ça va siffler dans un instant, je pense. Là, oui, ça vient de siffler.
Affischiato.
Victoire 1-0 de la Juve qui continue cette domination totale. L'Inter a fait un très beau match. Elle a cherché de défendre, elle a cherché d'attaquer. Mais quand la Juve a mis vraiment les pieds sur l'accélérateur, avec la classe de certains joueurs, la puissance des autres, comme Mandzukic, victoire logique.
Voilà, victoire de la Juve et donc qui survole la Serie A. Merci à Malcolm, supporter du PSG, qui a été avec nous dans l'after. Merci Saber.
Avec plaisir.
Très vite mon Saber, tu reviens pas plus vite. On te retrouve tout à l'heure Saber.
Tu peux me faire un Saber,
Simone, t'as le mec, il a un problème avec les blazes aujourd'hui. À tout de suite les gars. Et nous on vous retrouve dans un instant avec Ludo Bragnac et avec Jonathan Macardy. On sera du côté de Nantes avec Pierre-Yves Leroux qui a rencontré Vahid. Nantes et Vahid peuvent-ils aller loin ensemble? C'est la question qu'on vous pose, supporters des Canaries. Et on vous attend au 32-16 pour y répondre. À tout de suite.
RMC Football Show. L'After Foot. Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovico Bragnac et de Jonathan Macardy, vous êtes avec nous sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio également. On va filer du côté de Nantes, retrouver Pierre-Yves Leroux, notre correspondant. Salut Pile.
Monsieur Villas, bonsoir.
Comment va Pile?
Très bien, il va très bien.
C'est vrai, ça roule?
Oui, tout à fait.
Ils sont bien, bonsoir, là, Nantes.
Mais oui, vous savez, il n'y a qu'en Bretagne qui a des matchs de Ligue 1 ce week-end, alors ça va bien.
C'est vrai d'ailleurs, parce qu'il y a Guingamp-Amiens et Rennes-Dijon. Voilà, c'est les deux matchs qui se joueront pour cette 17e journée de Ligue 1.
C'est le championnat de Bretagne.
Exactement. Ouais.
Alors Nantes qui est 12e de Ligue 1, Nantes qui revit depuis l'arrivée de Vahid, alors qui reste sur cette fameuse victoire face à l'OM 3-2. Ouais. Vahid avec Nantes en 8 matchs, c'est 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Cardozo avait lui aussi dirigé 8 matchs de Ligue 1, c'était une victoire, 3 nuls et 4 défaites. T'as rencontré Vahid il y a quelques jours, toi mon pile, c'était comment alors?
Bah, je le rencontre très souvent depuis un moment parce que comme les matchs s'enchaînent évidemment, on a toutes les conférences de presse, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir passer une petite heure dans son bureau à discuter football, à discuter de plein de choses. On sent quelqu'un qui a vraiment du plaisir à retrouver la Genelière, à retrouver ce lieu qu'il a connu à ses plus belles années de footballeur. Donc il y a toujours un petit peu de nostalgie, même s'il dit qu'il a beaucoup de travail et qu'il profite un petit peu moins, mais de se retrouver là dans ces lieux où il a côtoyé Coco Suodo, qui lui a fait découvrir un nouveau football. On sent qu'il a envie de transmettre au club ce que le club lui a donné. Alors je ne sais pas s'il va y arriver, mais pour l'instant, en tout cas, il met toute l'énergie qu'il a dans ce défi. Il dit qu'il n'aurait jamais accepté ça si la proposition était venue d'un autre club. On peut le croire. Après, il y a des gens qui critiquent un petit peu en disant de toute façon, Vahid, c'est toujours le même discours. Il va toujours trouver des excuses. Quand ça va bien, c'est grâce à lui, etc. Et quand ça va pas, c'est parce qu'il se passe plein de choses en coulisses. On n'en est qu'à 8 matchs. Mais pour l'instant, il y a eu une vraie transformation, c'est sûr, de ce groupe qui, vous l'avez vu contre Marseille, a mis une énergie folle jusqu'à la dernière minute, qui s'est transcendé. Et j'aime bien ce qui est en train de devenir Salah, qui est peut-être un peu, je vais pas dire le chouchou, mais Vahid se retrouve peut-être dans Emiliano Salah.
Ah, tu sais que dans l'after c'est le fameux chouchou pas bon, alors d'ailleurs et plus chouchou pas bon, tant il est
meilleur
bon,
meilleur buteur européen.
Non, je pense qu'on peut continuer de dire qu'il est pas bon.
Oh non, là tu vas loin, là il est bien, là Salah.
Il marque des buts,
ouais, mais il est pas dégueu, quoi. Buts. Il est quand même pas mal.
Je peux te dire qu'il y a une flopée de clubs qui seraient contents de l'avoir.
Brenda aussi a mis beaucoup de buts.
Il en a mis, je pense, moins que Salah. Il marquait pas des. Là, il est hyper régulier depuis 3 saisons déjà, ouais. Salah.
J'attends encore un petit peu parce que techniquement, ça reste quand même un petit peu faible, je trouve.
Alors, la question qu'on vous pose et qu'on pose également à toi, Pile, supporter de Nantes, on vous attend 32-16 pour y répondre, c'est Vahid et Nantes peuvent-ils aller loin ensemble? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pile? C'est vrai que la question, elle concerne Vahid, mais elle concerne aussi le président Keita, qui a eu quand même des relations souvent tumultueuses avec ses entraîneurs depuis qu'il a repris le club.
Quand on rentre dans le bureau de Vahid Halilhodžić, c'est très amusant parce qu'il y a une chose qui frappe tout de suite. Ce sont deux caricatures qui sont parues dans la presse spécialisée au moment de l'arrivée de Vahid Halilhodžić, où on voit Valdemar Keita avec toutes les têtes de ses entraîneurs derrière et qui en gros dit bienvenue, vous allez prendre la tête du FC Nantes. et c'est amusant, ils sont en train de se battre sur une autre caricature. J'aimerais croire pour le FC Nantes que ça peut durer, que ça peut fonctionner, parce que comme le dit Vahid Halilhodžić, ce club a besoin de stabilité, enfin d'une stabilité retrouvée pour avoir des résultats. Mais j'ai un petit peu peur que l'histoire ne dure pas trop longtemps, comme à chaque fois avec Valdemar Keita et comme à chaque fois avec Vahid Halilhodžić d'ailleurs.
Qu'est-ce que t'en penses toi, Ludo?
Pile nous fait une magnifique entrer en matière. Pour moi, c'est le fait qu'il parle de Vahid qui s'inspire de Coco Suodo. Pour moi, ça me parle. Dire qu'un entraîneur qui s'inspire du passé et de lui ses références pour pouvoir justement s'inspirer de l'atmosphère ambiante là-bas et essayer de mettre ça en pratique. Moi, voilà, ça c'est des choses qui me parlent. Après, Vahid, on connaît sa rigueur, sa détermination. Honnêtement, j'étais sceptique sur l'impact qu'il peut avoir à long terme, et je le suis toujours, parce que on est une génération, il a une manière de manager, et cette nouvelle génération, elle se lasse rapidement, elle a du mal, elle aime pas trop encaisser les coups, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure avec l'Olympique de Marseille, mais voilà, il a une manière de manager, je sais pas, il faudra qu'il essaye d'allier la carotte et le bâton. Le problème avec Vahid, c'est que on sait qu'il a souvent pratiqué la politique du bâton. Donc s'il arrive à allier ça,
t'aimes bien ça aussi, ça te parle. Hein.
Vous avez des cons.
Il préfère les carottes. Ah ouais.
Les carottes du Kikadi,
c'est
là.
Pointu, ouais.
C'est la carotte de la golden carotte du Kikadi.
Je parle du goût, c'est meilleur une carotte qu'un bâton. Enfin.
Et donc, ça jouera aussi bien sûr sur l'influence du président. Le président l'a voulu, l'a souhaité. Espérons qu'il est satisfait. En tout cas, il peut l'être en ce moment. Mais c'est vrai que tout ça, à long terme, je sais pas où est-ce que ça nous mène.
Le problème, c'est que c'est très bien ce qu'il fait. Évidemment, Nantes était dans un sale état. Il arrive, il est ressuscité un petit peu. Mais quand on regarde le contenu des matchs, tactiquement et techniquement, ça reste quand même rudimentaire. C'est basé sur le fait que les joueurs ont retrouvé une sorte de motivation, un regain d'intérêt par le fait de porter ce maillot qui est mythique. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie.
Ça fait
beaucoup de choses, je suis d'accord. Mais après, là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Vahid et Nantes, ça peut marcher dans la durée? Moi, je vous le dis tout de suite, ce genre de schéma qui est somme toute assez limité, qui repose seulement sur l'état d'esprit, sur l'envie et sur la motivation, on sait par expérience que ça ne dure jamais plus d'une saison. Alors, ce qui fait, c'est très bien. Il faut que Nantes, il est en train de sauver Nantes, de sauver la saison de Nantes. Mais je pense que, moi, ce qui me choque, c'est que dans l'optique de Valdemar Quitta de l'intersaison, c'était de construire un projet. On nous a parlé de projet de jeu.
Je sens que tu nous présentes un peu ton...
Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais le projet de Nantes à l'été, quand il prend ton ami Cardozo, c'était de faire un projet de jeu, de vraiment essayer de développer quelque chose, que Nantes ait une vraie identité de jeu, qu'on renoue justement avec les années glorieuses du FC Nantes où, quand tu voyais Nantes jouer, tu savais, ça c'est Nantes, c'est le style nantais. Et puis là, on passe du coq à l'âne, j'ai envie de dire. Donc, alors oui, il y avait une situation d'urgence, mais alors c'est très bien si ça dure juste cette saison-là, mais je serais assez sceptique si l'année prochaine nous annonce qu'il repart pour un tour.
Les gars, on va accueillir Benjamin qui est supporter nantais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Benjamin.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut Benjamin.
Alors Benjamin, comment tu réponds à cette question, toi? Nantes et Vahid peuvent-ils aller loin ensemble? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Écoutez, pour le moment, les résultats sont plutôt là. Je tenais quand même à dire que depuis l'arrivée de Vahid, le calendrier était hyper favorable, quoi.
Aussi.
J'étais à la Beaujoire, on a pris Toulouse, on a pris Guingamp, on a pris Marseille, et honnêtement, j'étais aussi à la Beaujoire, c'était un tout petit Marseille. Je pense que même une équipe de Ligue 2 les aurait... Alors j'exagère un petit peu.
Non,
si. On enflamme, on dit on a battu Marseille. Mais honnêtement, je les ai vraiment trouvés en crise de confiance. Je les ai trouvés faibles techniquement.
Marseille, c'est 6 défaites en 9 matchs.
Oui, voilà. Donc voilà. Et puis, le seul gros qu'on a pris, c'est Saint-Etienne.
Là, justement, Benjamin, je te coupe juste deux secondes, mais tu le sais certainement mieux que nous, mais tu as vu le calendrier Nantes avant la trêve. Il y a Montpellier, Rennes et le PSG, là, pour Nantes.
Tout à fait. Donc là, moi, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner, parce que je trouve qu'on joue au chien. C'est-à-dire qu'on a des joueurs, qui sont techniquement pas trop mauvais, mais on n'a pas non plus des cadors.
T'as de la qualité, quand même.
Ouais.
Les Bossia, Lima, Carlo, compagnie, c'est quand même pas mal.
Lima fait un super match. Carlo, c'est très solide. Rongier, quand il est là, je pense que Rongier, c'est un des joueurs qui risque d'exploser. Bochilia, c'est pareil. On a des bons joueurs. Après, pour revenir à Vahid, ce qui peut être potentiellement inquiétant, c'est aujourd'hui, il y a le sursaut, on a eu un petit calendrier. C'est que Quitta, pour l'instant, ne dit rien, parce que les résultats sont là. Mais le problème, c'est que depuis des années, Quitta, il peut jamais s'empêcher de sortir du bois. Et un jour, il va arriver à un micro d'une télé, d'une radio, il va commencer à faire des déclarations. Et c'est là où ça risque de commencer. C'est ce qu'on dit perpétuellement depuis 15 ans, quoi. Donc, moi, je pense que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique.
Et des agrandisseurs de pénis?
Ouais, en Chine, ça marche très bien, apparemment.
Médical, on va dire.
Et en fait, Quitta, le FC Nantes, c'est un peu son jouet, c'est ce qui lui permet d'avoir une couverture médiatique. Donc, malheureusement, il ne peut pas s'en empêcher. Donc, s'il laisse les pleins pouvoirs à Vaïd, peu importe, Vaïd, il y a un projet de jeu, on n'a pas, si on n'a pas une fuite de tous nos joueurs à l'intersaison, à la fin de la saison, n'importe quel entraîneur correct ou normal pourrait y arriver. Le problème, il y a un problème de management derrière, il y a un problème de fond, quoi. Alors, pour en venir sur la saison, c'est, je trouve qu'il a bien, il est revenu à un style de jeu qu'on avait plus sous Conte Sao ou même sous Ranieri, c'est-à-dire défensif au chien. Et aujourd'hui, on a les joueurs pour jouer comme ça. Parce qu'on n'a pas les joueurs pour jouer avec le projet de Cardozo, avoir la possession, non, c'est pas vrai.
Mais enfin, quoi. 19 donc, buts en 8 matchs, c'est, on peut réduire toujours Vahid Halilhodžić à un entraîneur défensif.
Non, oh, c'est pas vraiment le mot qui irait, je trouve.
Pas à l'instant T, en tout cas.
C'est pas ce que je dis, les gars. C'est que je trouve que vraiment les joueurs mouillent le maillot, ils s'arrachent.
Il y a beaucoup d'intensité dans ton jeu.
Il y a beaucoup d'intensité, donc.
C'est assez rudimentaire comme plan de jeu, c'est-à-dire presser fort, être très solide derrière et aller très vite devant. C'est rudimentaire, mais c'est très efficace pour l'instant.
Mais bien sûr, mais j'ai pas dit le contraire, quoi. Est-ce que sur la durée, avec le calendrier qu'on a, on va réussir à continuer? Est-ce qu'il va pas les essorer aussi? Ce que tout le monde dit, c'est la méthode Vaïd. Ça, je suis pas devin, je peux pas le dire. Mais en tout cas, pour qu'il y ait de la continuité, de toute manière, il faudra que Kita se réfrène, quoi.
Sinon, merci Benjamin d'avoir été avec nous. Salut Benjamin. Okay. À bientôt. Salut Benjamin. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, Pierre-Yves, qu'il est très fataliste, Benjamin. Mais la principale interrogation, elle est surtout du côté de Valdemar Kita. Du coup, c'est surtout lui hein, qui s'est embrouillé avec ses prédécesseurs à Vaïd.
Oui, ça se jouera pas devant un micro, à mon avis. Ça va se jouer au mercato. Il y aura un désaccord parce que Salah va partir ou parce que Diego Carlos va partir. Et Vaïd Halilhodžić cette semaine a joué les naïfs en disant non, Salah ne partira pas à moins qu'il se passe des choses dans mon dos que je ne connais pas parce que je suis toujours sur le terrain, je suis en train d'entraîner.
Attends, Pierre, il parlait de la saison prochaine ou de cet hiver?
Non, de cet hiver.
Ok.
Mais il le bade quand même un peu, Valdemar Kita, il le voulait absolument. Donc ça, c'est déjà quand même un peu.
Oui, mais il y a un déficit. Le club a un déficit. Le club
a
besoin d'argent.
Salah va pas partir cet hiver.
C'est possible.
C'est possible.
C'est qu'il devait partir l'été dernier, déjà. C'était pas impossible qu'il parte.
Oui, il y avait une offre de Galatasaray et le club s'y est opposé. Le problème de Salah, c'est qu'il faut verser la moitié de la vente à Bordeaux. Donc vous pouvez pas le vendre 10 millions ou 15 millions.
Mais si on accueille Emeric, autre supporter de Nantes qui nous a appelé au 32-16. Salut Emeric.
Oui, bonsoir monsieur.
Salut Emeric. Alors Emeric, est-ce que tu y crois, toi, à l'histoire d'amour entre Nantes et Vaïd?
Ben, j'aimerais y croire, mais comme on a cru l'histoire d'amour avec Conte Sao, comme on a cru avec Miguel Cardozo quand il a mis son projet en place, en fait les années se suivent à Nantes et elles se ressemblent malheureusement, quoi. C'est un peu ça, c'est que on a toujours plein d'espoir quand on voit arriver des entraîneurs, et surtout là depuis qu'on a eu Conte Sao, parce qu'on s'est dit ça y est, on a les joueurs pour et on va aller accrocher l'Europe. Et on se rend compte que ben, c'est toujours la même histoire, quoi. C'est un peu compliqué à mettre en place. Et puis Kita qui est pas patient et qui commence à faire quelques déclarations. Derrière, ça chauffe avec l'entraîneur. Voilà, c'est vraiment usant. Alors j'aimerais y croire, mais Vaïd a la réputation d'être un entraîneur qui a pas non plus une grande patience. Donc bon, voilà. Si les résultats sont là, ça va tenir. Sinon, ben ça va vite se terminer, je pense, quoi.
Ouais. Et toi, tu penses aussi que ça peut jouer sur le mercato, du coup?
Ouais. Je pense que, par contre, encore une fois, hein, mais je veux pas taper sur Kita. Quoique, voilà, il faudrait qu'il écoute un peu ses entraîneurs, notamment quand c'est des entraîneurs qui ont des résultats. Alors après, je suis assez d'accord avec l'auditeur précédent. Il a dit que là, il a eu un calendrier qui est quand même plutôt favorable pour le moment. Il reste 3 matchs avant la fin de l'année civile, là, jusqu'en 2019. Ça va être des gros matchs aussi, donc on va voir les 3 matchs comment ça se présente, mais voilà, il faut lui faire confiance. Et s'il dit qu'il faut faire du ménage et qu'il faut garder ça là et tout ça, faut vraiment le faire, quoi.
Emeric, je trouve ça un peu réducteur, le fait de dire un calendrier facile. Quand t'es dans la situation dans laquelle il trouve le FC Nantes, honnêtement, il y a pas de match facile. Que tu joues Marseille ou autre, quand t'es dans la nasse comme ça, quand t'es en bas, je peux te dire que tous les matchs, ils sont ultra durs.
On peut
être sceptique sur la collaboration à plus long terme, mais en tout cas,
c'est ça. Ce qu'il fait là, en ce moment, à court terme,
sortir, redonner une bouffée d'oxygène au club et faire un match comme ils ont fait.
Mais
ça vaut me dire que c'était un petit Marseille, ça reste Olympique de Marseille.
De toute manière, la vraie question, c'est pas sur cette saison-là, hein. Ça va être, est-ce que tu gardes Vaïd après? Aymeric, reste avec nous. On fait une courte respiration. On revient dans quelques instants avec Thierry Leroux, avec Jonathan Macardy et avec Ludo Bragnac également. On écoutera même Vaïd, que tu as rencontré du coup, mon cher Thierry Leroux, et qui a répondu d'ailleurs à cette fameuse question. Est-ce qu'il se voit aller loin avec le FC Nantes? Il a un peu répondu à ça. Il est plutôt pragmatique, Vaïd. On va l'écouter juste après ça.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovic Obraniak, de Jonathan Macardy, de Pierre-Yves Leroux, notre correspondant en Bretagne, et qui vient nous analyser la situation du FC Nantes pour répondre à cette question. Nantes et Vaïd peuvent-ils aller loin ensemble? Aymeric, supporter des Canaries, toujours en direct avec nous. Toujours là, Aymeric?
Bien sûr.
Bien entendu.
Toujours à l'écoute.
Toujours à l'écoute. Dis-moi, Pile.
Oui.
T'es là, mon Pile?
Oui, tout à fait.
Et là, mon pote, Pile à l'heure.
Et toujours.
Ça passe.
Non.
Si.
Tu lui as posé la question à Vaïd, justement, tu lui as posé une question sur son avenir, je crois, non?
Oui.
Tu veux qu'on l'écoute?
Allez, c'est parti.
Allez, vamos.
C'est comme ça, l'ami à notre nez. J'ai pas ni illusion, ni rêve, tout ça. J'ai aucune pression sur moi. Je peux quitter Nantes demain. Je peux se permettre cette luxe quitter si je suis pas content de cette chose. Mais je suis venu là vraiment pour travailler.
Voilà, donc il n'a pas d'illusion finalement, il va être très pragmatique comme d'habitude, hein, Pile. Hein.
Oui, et puis comme il le dit, voilà, aujourd'hui, il peut se permettre de partir du jour au lendemain, il n'a pas besoin de rester, d'avoir du travail à 66 ans, s'il veut, voilà, il repart tranquille, en famille, dans le nord de la France. Moi, je suis un romantique, et je me dis que Ranieri, que Conceição, que Cardozo n'avaient pas la tâche avec ce club que peut avoir Vaïd Halilhodžić. Et je pense qu'il va vouloir... Il va avoir envie que ça dure et que ça marche, forcément. Donc oui, peut-être que c'est un petit truc qui va faire que ça va durer un petit peu plus longtemps, comme Michel Derzakarian qui est resté c'est assez vrai longtemps finalement. Mais bon, il a avalé beaucoup de couleuvres, hein, Michel Derzakarian. Je suis pas sûr que Vaïd Halilhodžić les avale autant.
C'est une certitude que Coach Vaïd, il a quand même, il a quand même un ego, et ça, à son âge, c'est difficile de revenir sur son, sur ce trait de caractère-là. Il a des idées bien conçues. Il a une certaine vision, et c'est vrai que quand tu vas à l'encontre de cette vision-là, je suis pas sûr que c'est Valdemar Quita qui pourra lui expliquer le football. Ça, c'est une certitude.
Et dis-moi, Aymeric, c'est important pour toi aussi en tant que supporter, justement, cette attache que Vaïd peut avoir au FC Nantes, ou au final, tant que t'as les résultats, finalement, tu t'en fous?
Non, bien sûr, c'est toujours plus agréable quand il y a un entraîneur qui dit aimer le club. Nous, on aime d'autant plus ça. Moi, je sais que voilà, un Michael Landreau, si le pari avait été tenté, je l'aurais pris avec grand plaisir. Parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas. Je pense que on aurait un peu plus d'indulgence envers des gens comme ça qui aiment le club profondément. Après,
et tu auras un historique avec le club.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Franchement, je suis un peu pareil. Je pense que Vaïd, avec le caractère qu'il a et l'amour qu'il a pour le club, je pense qu'il aura envie de tout faire pour que ça marche.
Aymeric et surtout Pierre-Yves vont pouvoir nous répondre là-dessus. Mais je pense que le problème de Nantes ces dernières années, ça a surtout été le fait que Valdemar Quita et son fils s'entourent peut-être un petit peu mal, qu'il y ait beaucoup trop de gens
qui s'entourent maintenant. Non, mais maintenant ils s'entourent plus, surtout. Ils décident de tout tous les deux.
C'est que il y a eu beaucoup de gens qui leur ont soufflé à l'oreille différentes choses, différents vents, et c'est ça qui fait qu'il y a eu beaucoup d'instabilité au sein du club.
Les preuves sont là pour.
C'est ce que j'allais dire, c'est que si maintenant, apparemment, ils ont fait le ménage et qu'ils prennent un entraîneur que Valdemar Quita voulait vraiment, même si c'est deux forts caractères, on peut peut-être espérer qu'il se passe quelque chose,
moi,
quoi, tu vois.
Il n'y a pas besoin d'avoir l'entourage. Moi, je pense qu'il y a divergence aussi de point de vue entre le père et le fils.
Pierre-Yves, tu peux nous répondre à ça ou pas?
Ben, il y a peut-être un élément, puisque il semblerait qu'ils aient envie de remettre en place une cellule de recrutement, oui, et avec des noms comme Stéphane Pedron, avec Bruno Baroncelli, voilà des noms qui circulent actuellement, donc à concrétiser, mais ça pourrait venir peut-être renforcer aussi, peut-être que Vaïd Halilhodžić a aussi soufflé cette idée-là.
Ouais. Très bien. Aymeric, merci d'avoir été avec nous.
Oui, je voulais juste vous poser une question, peut-être vous avez des infos. On a vu là sur le site du FC Nantes qu'il y avait un communiqué pour le projet du nouveau stade.
Ah bah tiens, on allait en parler, bah tu fais bien de poser la question.
On a les infos, oui.
Bon, et ben ouais, voilà, j'ai hâte de les avoir.
Vas-y alors, attends, il va te répondre, Pierre.
Bah oui, parce que j'ai suivi tout le conseil communautaire aujourd'hui, donc il y avait ce fameux vote pour un accord de principe de la part de Nantes Métropole pour la cession des 9 hectares, donc le parking de la Beaujoire, pour la construction d'un nouveau stade. Donc Valdemarquita devrait pouvoir construire un nouveau stade. Alors il y a encore pas mal d'échéances, mais sur le principe, en tout cas, les élus sont d'accord pour vendre à Valdemarquita et au FC Nantes, enfin plus précisément à la holding de Valdemarquita, ces 9 hectares pour construire un nouveau stade.
Et alors attends, et c'est toujours d'actualité de garder les deux stades ?
Oui, parce qu'on est
mais ça c'est lunaire un peu, non ?
On est des originaux. À Nantes. C'est un petit peu ubuesque, pour tout vous dire. Je pense qu'on en a, on n'a pas fini quand même d'entendre parler de ce projet.
Vous en pensez quoi, Eric, les supporters?
Ben, j'ai l'impression qu'il y a qu'un Nantes qu'on peut entendre des histoires comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, mais je m'imagine pas un Olympique de Marseille avec deux stades, un Paris. Et ben, de toute façon, Paris, ils auraient même pas la place non plus. Mais je comprends
curieux,
pas
quand
le,
même.
Le délire. Ouais.
Quelle est la logique économique? Quelle est la logique d'amortissement et de rentabilité? C'est
non. Puis nous, je pense que les vrais supporters, enfin ou en tout cas la majorité des vrais supporters du FC Nantes étaient pour la rénovation de la Beaujoire. Et je pense que ça aurait été suffisant parce que derrière il y a quand même des choses à faire qui sont beaucoup plus intéressantes que de construire un nouveau stade.
D'autant Aymeric que la Beaujoire n'est pas particulièrement vétuste.
Non, voilà, ouais.
Non, mais je pense qu'il y a toutes les boutiques à faire retour, etc.
Le modernisme,
tout ce qui est expérience, etc.
Il y a pas assez
juste
de loge, en
fait. À la limite, ça peut être pas mal, mais de là à construire vraiment un nouveau stade qui va coûter une blinde alors que...
Non, mais si, à la limite, Aymeric, si tu le fais, ok, mais dans ce cas-là, on fait table rase du passé, c'est le cas de le dire, on fait un nouveau stade, mais avoir les deux stades côte à côte, enfin, ça va coûter une blinde à la mairie, enfin, après, c'est leur problème, hein, mais...
Ouais, mais même ça.
C'est leur problème, c'est les contribuables qui payent. C'est qui paye?
Mais construire un nouveau stade, à la limite, je veux bien si ça fait 4 ans qu'on termine dans les 5 premiers et qu'on a des vraies ambitions de retour à l'Europe et tout ça. Là, c'est pas le cas, donc, le premier objectif du FC Nantes aujourd'hui, ça serait de pouvoir essayer d'accrocher ses places européennes ou en tout cas les 6 premières places. Pas de construire un nouveau stade ou de rénover la Beaujoire peut-être, mais pas à construire un nouveau, quoi. Enfin, je ne comprends pas le délire, en fait.
Si tu construis un nouveau stade, il y a largement des espaces autour de Nantes, comme a fait Lyon, comme ont fait beaucoup de villes, pour mettre un petit peu à l'écart et reconstruire quelque chose. Là, ça va être en pleine ville. Je peux vous dire que ça a été l'enfer pour accéder au stade face à Marseille, mercredi. Il y a des gens qui ont mis 2 heures pour faire 5 kilomètres. Donc, vous imaginez, avec deux stades, plus de parking.
Pile l'inverse est aussi dramatique. C'est-à-dire que les stades à l'extérieur des villes sont aussi en train de tuer les affluences du fait des moyens de
transport.
Sauf quand c'est bien fait comme à Lyon.
Merci à Aymeric d'avoir été avec nous, supporter des Canaries. Merci beaucoup, Pile. Merci, Pierre-Yves.
Merci, messieurs.
Salut.
Bonne soirée. Ciao. À très vite, Pile.
Salut, Pierre-Yves.
Dans quelques instants, ton avis tranché, Jonathan, qui concerne l'Olympique de Marseille. Alors toi, tu dis le projet est mort.
Non, j'ai pas dit qu'il était mort. J'ai dit que la saison est charnière pour le projet.
Non, tu as dit le projet est mort.
Tu nous l'as dit tout à l'heure en antenne.
Mais n'importe quoi.
Tu assumes.
Vous êtes des sacrés menteurs. Hein.
Ouais. On vous attend, supporters de l'OM au 32-16 dans quelques instants avec Jonathan Macardy, donc avec Ludovic Obraniak. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot.